Frères et sœurs, recevons de la part de Dieu la grâce, la joie, la paix dans notre cœur, dans toute notre vie. Et pour inscrire cela au plus secret de nous-mêmes, je vous propose d'ouvrir votre psautier. Nous allons utiliser le livret liturgique qui figure au début du psautier et chanter la première indication musicale. Réjouissons-nous au Seigneur, nous nous levons pour nous réjouir. Dieu d'unité, Dieu d'amour, les paroles que nous prononçons de nos lèvres, enracine-les dans notre vie. Envoie-nous ton esprit pour prier en nous ce que nous n'osons pas prier, pour exiger de nous ce qui va au-delà de nos propres exigences, et nous encourager quand nous sommes tentés de suivre exclusivement nos propres voies. Oui, conduis-nous vers l'avenir, conduis-nous ensemble, conduis-nous à accomplir ta volonté. Amen. Et dans le psautier français, cette fois au psaume 97, nous chanterons les strophes 1 et 3 de ce psaume 97. Prenons place et écoutons ce que l'apôtre Paul écrivit autrefois à la communauté appelée Galate. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres, car toute loi se résume en ce seul commandement : aime ton prochain comme toi-même. Éternel notre Dieu, si d'une manière ou d'une autre nous avons fait naître la douleur, si par notre faute quelqu'un est tombé, si nous avons refusé d'aller à toi, pardonne-nous. Si nous avons parlé en vain, sans vérité, si nous avons laissé sans aide le malheureux, si nous n'avons pas été capables d'accueillir notre frère, pardonne-nous. Si nous avons voulu vivre dans l'indifférence, fuir le combat, nous épargner de tout effort alors que tu nous voulais au plus fort de la lutte, pardonne-nous. Nous reconnaissons devant toi cette distance qui nous sépare de ce que nous aurions pu accomplir. C'est cela notre péché. Alors que le désespoir n'est pas raison de nous. Et pour cela, aide-nous à marcher sur ces chemins que tu ouvres devant nous. Amen. Nous le savons, le cœur même de l'Évangile, c'est que chacun d'entre nous est pardonné, que nous sommes toutes et tous au bénéfice de cette grâce. Mais qu'est-ce que recevoir le pardon de Dieu ? Eh bien, recevoir le pardon de Dieu, c'est peut-être tout simplement dire oui à la vie tout entière. C'est accepter de déposer devant Dieu le poids de nos soucis, de nos erreurs, ce que nous venons de faire. Hier est passé, demain n'est pas encore, et aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux profiter de la vie que Dieu te donne, de cette vie portée à son incandescence. Oui, Dieu nous pardonne, c'est ce que nous apprenons à travers tout le ministère de Jésus-Christ. Et il nous conduit à dire oui à la vie tout entière, oui, jusqu'à cette vie éternelle. Chantons notre reconnaissance en nous levant et en utilisant notre livret liturgique. Et nous pouvons exprimer notre attachement à la vie authentique en ces termes, en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort, malgré nous, à travers nous et pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle ce monde guidé par les forces mortifères et vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen. Prenons place pour entendre un passage du deuxième livre de Samuel. Ce sera un passage dans le chapitre 16. À cette époque, un homme, David, est roi d'Israël. Cela fait des dizaines d'années qu'il est roi d'Israël. Et l'un de ses fils, Absalom, commence à s'impatienter un peu, désirant conquérir le trône de son père qui lui est dû en quelque sorte. Et alors il va intriguer. Il va intriguer auprès du peuple jusqu'au point de fomenter une sorte de coup d'État. Un coup d'État qui oblige David à fuir Jérusalem. Et voici notre David qui est du côté du Jourdain. Et je vous lis ce récit au deuxième livre de Samuel, au chapitre 16, les versets 5 et suivants. David était arrivé jusqu'à Bakourim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Saül était le roi précédent, et David avait été l'un des aides de Saül jusqu'au moment où Saül, ne faisant plus ce qui plaisait aux yeux de Dieu, selon la formule du livre biblique, c'est David qui avait succédé à Saül. Donc un homme de la maison de Saül, Shimei, fils de Guéra, sort. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tous les peuples et tous les hommes vaillants était à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, homme méchant. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. » Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang, au sens d'un homme qui a fait verser le sang. Alors Abishai, fils de Tseruah, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur ? Laisse-moi, je te prie, aller lui ôter la tête. » Mais le roi dit, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de Tseruya ? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, « Maudit David. » Qui donc lui dira, « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. » À plus forte raison, ce Benjaminite, Saül est de la tribu de Benjamin. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions de ce jour ? David et ses gens continuèrent leur chemin, et Shimei marché sur le flanc de la montagne, près de David. Et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler de la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent exténués. Et ils reprirent âme. Voici, frères et sœurs, ce texte qui nourrira notre méditation ce matin. Pour l'heure, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 256. Nous allons chanter les strophes 1, 3 et 4, cantique 256, et je vous propose de vous lever et de chanter avec un peu plus d'enthousiasme que le psaume 97, si vous le souhaitez. Toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Esprit, rends ce texte vivant pour que nous y entendions un écho de ta parole. Chers frères et sœurs, à Colbert, qui lui demandait de quelle manière le gouvernement interventionniste de Louis XIV pouvait aider d'une manière ou d'une autre le commerce, le marchand, dénommé Le Gendre, lui répondit tout simplement « Laissez-nous faire ». À sa suite, des gens aussi illustres que les lycées auxquels ils ont donné leur nom à Paris, Turgot, Jean-Baptiste C, et bien d'autres, développèrent ce que le protestant Benjamin Constant, au XIXe siècle, résuma dans cette formule, pour la pensée, pour l'éducation, pour l'industrie, la devise du gouvernement doit être « laisser faire, laisser passer ». Mais bien avant eux, David, le roi David, avait dit à ses conseillers de l'époque « laissez, laissez-le et qu'il maudisse ». Laissez faire. Voilà, je trouve, une bien curieuse expression dans la bouche de David qui n'est pas réputée pour être un tendre laxiste. Plutôt un chef de guerre qui ne craignait pas de laisser des centaines de morts sur les champs de bataille, du moins selon ce que disent les récits de Samuel. C'est donc ce même personnage qui, maudit et caillassé, ne trouve rien de mieux à dire que « laissez-le ». Propos assez inouï dans notre France, au regard d'une actualité qui ne cesse de nous déverser des images de milliers de Shimei qui se rassemblent au même cri que celui que nous aurions pu entendre dans l'hébreu du texte, tss, puisque c'est le verbe yatsa, sortir, qui est l'impératif, fait tse. Et si j'étais kabbaliste, je dirais que Shimei est cette petite mouche qui pique inlassablement David en lui disant tss, tss. Tse, tse. Une formule que l'on entend depuis des années. Sors, va-t'en, dehors, casse-toi. Mais des cris qui sont réprimés, des Shimei qui inlassablement subissent la répression, une sévère répression. Ici, David est manifestement un souverain qui refuse de faire taire l'opposition. David est manifestement un souverain qui refuse qu'on coupe la tête à la contestation. Il laisse faire, il laisse dire, il laisse passer Shimei. Mieux que cela, il l'écoute. Faisons droit à ce que signifie Shimei en hébreu, l'impératif « écoute ». Autrement dit, David prend Shimei au sérieux. Et voilà peut-être l'intérêt majeur du laisser-faire, prendre les individus au sérieux et leur permettre de faire valoir leur génie propre. Et le roi David va jusqu'à suggérer que c'est Dieu qui a demandé à Shimei d'agir de la sorte. Cet homme, pour le moins contestataire, agirait donc au nom même de Dieu, selon la volonté de Dieu. Laisser faire signifie alors laisser cet homme agir selon ce que Dieu lui ordonne. Ce que fait David, c'est de reconnaître dans cet homme la possibilité d'une action qui puise sa raison d'être en Dieu. Autrement dit, David, qui s'y connaît en matière de religion, puisqu'il est quand même Messie de Dieu, ou Christ, si nous le disons en grec, puisqu'il a reçu l'onction de Dieu de la part du prophète Samuel, eh bien David discerne une attitude religieuse chez cet homme. Une attitude religieuse chez Shimei. C'est pas aussi évident que cela. Peut-être pouvons-nous le comprendre avec justement ce que Benjamin Constant disait au sujet du sentiment religieux. J'ouvre une parenthèse culturelle pour le trivial poursuite. Benjamin Constant, dont les obsèques ont eu lieu rue Saint-Antoine, à Sainte-Marie, donc un protestant libéral, le jour de ses obsèques, 150 000 personnes, place de la Bastille. Je ne ferai pas l'enquête de savoir qui connaissait Benjamin Constant avant que j'évoque le nom ici. Un oublié qu'il faudrait peut-être ressusciter. Je referme la parenthèse. Que dit Benjamin Constant au sujet du sentiment religieux ? Il le caractérise ainsi. Un désir confus de quelque chose de meilleur que ce que nous connaissons. Le sentiment religieux, écrit-il, est la réponse à ce cri de l'âme que nul ne fait taire, à cet élan vers l'inconnu, vers l'infini, que nul ne parvient à dompter entièrement, de quelque distraction qu'il s'entoure, avec quelque habileté qu'il s'étourdisse ou qu'il se dégrade. Il y a chez Shimei ce devoir impérieux de faire entendre à David une autre voix que la sienne, une autre voix que celle dont l'abreuve s'est conseillée. Et c'est la voix du prophète, c'est la voix de l'homme aux prises avec la vie, c'est la voix de l'homme aux prises avec la liberté qu'il appelle à l'action. On ne peut rien faire contre la voix d'un tel homme. Oh si, bien sûr. On peut lui arracher la tête. Mais quel gain dans ce cas-là ? Quel gain à arracher la tête de quelqu'un qui est porte-parole de ce désir impérieux de vivre vraiment ? Et David, justement, ne s'y trompe pas. Et il fait droit à cette voix. Il la laisse passer jusqu'à lui. Et même, il laisse cette voix l'accompagner jusqu'à sa destination. Il laisse l'homme faire entendre que David a un cœur de pierre, ce qu'il manifeste par ces pierres qu'il jette, et que sa conduite ne provoque que malédiction sur tout son chemin. Ainsi, en laissant faire, David permet à la vérité de frayer son propre chemin jusqu'à lui, lui qui était entouré de conseillers merveilleux qui lissaient l'histoire, et filtrer tout ce qui pouvait poser problème. En d'autres circonstances, en d'autres lieux, en d'autres époques, un souverain, un chef, un dirigeant qui laisse faire, offre à quelqu'un, un subordonné, un subalterne, un collaborateur, la possibilité de faire valoir son aspiration à la transcendance, son désir de progression, sa capacité de perfectibilité. En ne restreignant pas l'homme à un cahier des charges, à un profil de poste, à une loi, à une série de décrets, le chef laisse à l'homme la possibilité de faire valoir son génie propre. Ici, David atteste que l'ancrage en Dieu, la foi, le sentiment religieux, sont constitutifs de son action politique. Il pense la politique à partir de la dimension religieuse, à partir du théologique. Peut-être parce que la dimension politique, au même titre que toutes les dimensions de notre vie, jusque ce qu'il y a de plus anodin dans notre quotidien, n'a pas lieu de se priver du goût de l'infini, de la transcendance dont le sentiment religieux est le nom. S'il n'est pas très recommandé de nos jours de dire qu'on agit au nom de Dieu en s'engageant en politique, c'est possible au nord de l'Europe, mais en France. S'il n'est pas vraiment recommandé de dire qu'on accomplit sa tâche de secrétaire au nom de Dieu, qu'on remplit sa fonction de professeur au nom de Dieu, qu'on exerce ses responsabilités de magistrat au nom de Dieu. Édouard Laboulé, en 1863, écrivait pourtant « Laissez faire, laissez chaque homme user honnêtement et comme il l'entendra des facultés qu'il a reçues de Dieu. » C'était une époque où Dieu n'était pas un gros mot tabou. Pour autant, ne considérons pas qu'il conviendrait de devenir des sortes d'intégristes de se laisser faire. Tant et si mal que laisser faire deviendrait tout laisser faire ou tout laisser aller. Il convient d'ailleurs de distinguer la formule qui, à l'oreille, ne s'entend pas très bien dans ma bouche, distinguer la formule à l'impératif, laisser faire, qui enjoint à l'action, qui est une sorte d'impératif à agir, à entreprendre, d'un laisser faire à l'infinitif, qui marquerait plutôt la passivité. L'impératif laisser faire n'est pas un laisser aller, un laisser faire n'importe quoi. David ne laisse pas son fils Absalom lui prendre tranquillement le trône et la vie. Certes, il s'enfuit, mais c'est pour mieux organiser sa défense, et autant vous dire qu'il n'hésitera pas à engager le combat ensuite. D'ailleurs, Absalom ne sortira pas tout à fait indemne de la bataille que David fera engager. David ne laisse pas faire ce conseiller qui est prêt à ôter la tête de Shimei. David n'est pas laxiste au sens strict du terme. David montre qu'en laissant faire Shimei, il ne laisse pas le champ libre à des forces mécaniques sans âme. Il repère chez Shimei un sentiment religieux qui l'anime, mais il repère chez Absalom la soif du pouvoir, et le comportement de David ne sera donc pas le même dans les deux cas. Il y a une sorte de discrimination. De même, quand David refuse qu'on lui apporte la tête de Shimei, ce n'est pas au nom d'un laxisme sans borne ou d'un sentimentalisme, David qui ne supporterait pas la vue du sang. Rappelons-nous que selon le texte biblique, il n'a pas été spécialement laxiste avec Goliath. Il avait terrassé d'une pierre, tiens, justement, avant de lui couper la tête. Ceci pour dire que David distingue entre action de Dieu et action criminelle. Entre action qui cherche à améliorer ce qui doit l'être, pour le bien de tous, et action qui n'est dictée que par un intérêt égoïste qui cherche à s'accomplir aux dépens de la justice ou des personnes. Shimei est porteur d'un message, il est porteur d'une idée, il est porteur d'une intuition. Il est porteur d'une certaine idée de la justice, de la morale, du rapport entre les hommes. Tuer Shimei, ce ne serait pas défendre une idée. Ce serait tuer un homme, nous le savons. Et dans le cas d'Absalom, nous sommes au contraire en présence d'une mécanique sans âme qui n'a que trop longtemps attendu la passation de pouvoir, qui n'en peut plus et qui du coup fomente un coup d'État pour son intérêt personnel, après avoir encouragé un phénomène de cour. Imaginons le prince Charles qui se met à monter tout le royaume d'Angleterre et tout le Commonwealth contre Élisabeth. Le prince Charles vaut bien mieux que cela. Le laisser faire consisterait à n'avoir que de... Le laisser faire à l'infinitif consisterait à n'avoir que de l'indifférence pour toute chose. Le laisser faire à l'infinitif consisterait à ne dégager aucune priorité, à ne rien mettre en perspective, à tout écraser en quelque sorte, à ne se sentir impliqué en rien, une sorte de tolérance absolue, à n'avoir ni passion, ni désir, ni morale. Ce laisser faire là, c'est s'abstenir d'exercer sa responsabilité d'être un rempart contre l'inhumain. Shimei, lui, ne laisse pas faire David. Il se pose comme rempart contre la barbarie. Laisser faire à l'infinitif, c'est un boulevard grand ouvert à la violence du plus fort. Ce genre de laisser faire est une dérégulation de l'histoire. Plus personne n'exerçant son esprit critique, les vertus étant ravalées au rang de souvenirs. Au contraire, l'impératif laisser faire consiste à donner les moyens, à autoriser, à garantir la liberté pour que chaque individu puisse choisir comment il veut coopérer avec les autres membres de la société. C'est permettre à l'homme ordinaire de choisir et d'agir. Il y a des Shimei, il y a des Absalom. Parfois, certains fréquentent les mêmes places. Ils ont les mêmes slogans. Ils lancent les mêmes pierres ou les mêmes cocktails Molotov. Mais n'ont ni les mêmes motivations, ni les mêmes objectifs. Une chose est de se tenir sur une place Tahrir, sur un Maïdan, dans un centre-ville français. Une autre est d'être animé par la passion de la justice, de la fraternité, du souci du plus petit, du plus fragile, ou l'amour de la liberté. Car il est manifeste que l'homme soit capable d'être animé par un égoïsme qui ignore tout du bien commun, qui n'ambitionne rien d'autre que de se servir sans limite pour un profit maximal, ou de faire valoir des intérêts de caste, des privilèges ou une vision étriquée de la société. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit, professe David. David qui perçoit dans l'attitude de Shimei les signes d'une passion désintéressée pour la vie véritable. Peut-être l'Éternel regarde-t-il ma peine et fera-t-il revenir pour moi ce qui est vivable à la place de la malédiction de ce jour ? Se demande David dans la foulée. Vous voyez, David n'agit pas ici en désespoir de cause, comme quelqu'un qui souffrant d'une sorte de maladie incurable, qu'aucune médecine ne peut guérir, s'en remet au premier venu. David parle comme un croyant qui, sans prétendre avoir une maîtrise quelconque du cours de l'histoire, peut-être, oulaille, peut-être, c'est pas sûr, mais ça se pourrait, interprète les signes des temps pour y lire les promesses qu'il porte en eux. Ce que fait Shimei, c'est ce qu'il est. Il est porteur de signes vers un autre ordre du monde possible, un autre fonctionnement de la société dans laquelle il vit. Et David est sensible à ces signes-là. Il ne les ignore pas. Il perçoit qu'une vérité qui jusque-là lui échappait est contenue dans l'énergie insolente de cet homme de la tribu de Benjamin, qui n'est qu'un chien mort aux yeux des conseillers de David, aux yeux des non-croyants qui entourent David et le conseillent aussi mal que tous les assoiffés de pouvoir qui caressent toujours la majesté dans le sens du poil, en étouffant tout sentiment religieux, toute velléité, en taisant les rêves qu'inspirent les frissons de l'infini. C'est Dominique de Villepin qui raconte que lorsqu'il a rencontré Jacques Chirac pour la première fois, c'était à l'occasion d'un discours international où il n'avait pas ménagé ses critiques. Et il raconte que Jacques Chirac avait compris le message, que son but était de servir, y compris en prenant le risque de ne pas être orthodoxe. Ce qui lui avait fait dire « servir n'est jamais flatté ». La question du courtisan, c'est « que veut entendre le pouvoir ?» Alors que la question du serviteur de l'État, c'est « quel est l'intérêt général ?» Eh bien, David, en laissant Shimei libre de s'exprimer, le laisse libre de transmettre son intuition de la transcendance et donc de la vie véritable. Au fond, David se met à l'école de Shimei. Il se met à l'école de cet individu qui n'est pas moins porteur d'une vérité que lui. Chacun a son fragment d'expérience qui mérite d'être interrogé, qui mérite d'être interprété et peut-être intégré. David laisse Shimei libre de faire voler la poussière des premiers jours. Vous savez, cette poussière de la création à partir de laquelle le rédacteur de la Genèse disait que l'Éternel pouvait susciter des hommes libres, susciter une humanité capable de prendre en charge le destin de notre bonne vieille terre. L'homme parle comme si cela ne suffisait pas. Et d'ailleurs, cela ne suffit pas. Alors il lance aussi des pierres. Jésus parlera de cela plus tard. Et il fait de la poussière tout au long du chemin de David. L'homme parle. Il est dit qu'il maudit David. Mais revenons un instant sur cette soi-disant malédiction. « Sors, Sors, homme sanguinaire, homme vaurien. À cela s'ajoute le fait que David est déclaré responsable du sang qu'il a fait couler. Interrogeons-nous un instant, est-ce vraiment une malédiction? On aurait tendance à dire oui, puisque c'est écrit. Et je crois qu'en faisant confiance à cette indication, on se fait avoir. Shimei est ici la voix divine. Alors oui, Dieu peut peut-être maudire après tout. Mais la voix divine qui lance à David que l'homme sanguinaire et que l'homme vaurien peuvent partir et laisser David, le David humain, là, celui qui calme les tourments par sa musique, celui qui protège le troupeau des dangers, celui qui peut être l'incarnation véritable de la vie authentique. Shimei maudit-il David ou lui permet-il de transcender sa condition du jour pour accéder à son être véritable? Lorsque nous sommes une néphèche, comme ce sera le cas au verset 14, finalement. Shimei maudit-il David ou en le rendant responsable de ce qu'il a fait, lui donne-t-il l'occasion d'être un homme adulte qui répond de ses actes, de ses propos, de ses choix? Un homme profondément libre, donc. Ne serait-ce pas plutôt un exorcisme? Un exorcisme comme on en trouve d'ailleurs encore de nos jours du côté de la Mecque. Quand on fait le tour de la Kaaba, on jette des pierres sur les djinns pour chasser les esprits maléfiques qui sont le signe de tout ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Pas de superstition particulière dans l'islam. Des rituels à caractère symbolique qui disent quelque chose que l'on retrouve profondément dans ce texte. Nous pouvons nous débarrasser de ce qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Est-ce une malédiction d'être débarrassé de ce qui nous encombre? En tous les cas, David, en laissant faire Shimei, engage un cercle plutôt vertueux, où la liberté d'action de Shimei lui permet de donner toute la démesure que lui inspire son sentiment religieux, son intuition de ce qu'est l'humanité en marche vers une plus grande humanité. Cesser d'être le barbare de service. David aurait pu être qualifié de boucher à son époque. Shimei lui permet de passer à autre chose. Au fond, en étant libre d'agir selon la conscience qu'il avait d'être appelé à forger un monde plus vivable, un monde meilleur, Shimei a contribué à offrir à David les moyens de sa rédemption, d'être à nouveau une âme vibrante après ce temps d'exténuation. Cet impératif « laisser faire » est alors la possibilité offerte à quiconque d'agir, de prononcer un mot, peut-être une phrase, qui, pour quelqu'un, déclenchera peut-être le bonheur. Amen. Le cantique 258 nous donnera les mots pour que cette invitation ne reste pas lettre morte et que nous nous engagions dans l'action. Tu me veux à ton service, les strophes 1, 2 et 3. Pour l'heure, nous allons aller plutôt vers la vie. Une vie un peu tranquille cette semaine, car ce sont les congés scolaires et l'activité ecclésiale, et elle a aussi un peu en roue libre. Prenons quelques dates pour la semaine suivante. Tout d'abord, dimanche prochain, le culte à 10h30 sera présidé par Marc Pernaud. Et sera suivi d'un repas, comme pour tout premier dimanche du mois. Et vous êtes donc invités à vous inscrire auprès de Philippe Bertrand, qui est au comptoir librairie, de manière à ce que l'équipe de repas puisse organiser au mieux cette intendance. Voilà, c'est un bon moment, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à participer dimanche prochain, après le culte, à ce repas paroissial. Deux dates, peut-être lundi 3 à 20h, l'approfondissement théologique, qui sera consacré aux théologies dites contextuelles, donc les théologies en contexte, et on s'intéressera tout particulièrement à la théologie féministe et à la théologie de la libération. Et puis le lendemain, mardi 4, à 20h également, commencera un nouveau cycle d'initiation à la théologie pour ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir quelques bases du christianisme, et vous êtes invités à vous manifester au préalable, auparavant, pour que nous puissions vous envoyer les informations qui vous seront nécessaires, quelques petits éléments à lire avant la première des 6 rencontres. Voilà. Il n'y aurait rien de pire que de vous dire et de vous imposer ce que vous allez maintenant donner à l'offrande. C'est un temps de grande liberté. Réjouissons-nous de cela. Frères et sœurs, nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, tu travailles dans le monde, dans l'histoire, inaperçu et irrésistible, comme la semence cachée qui chaque fois repousse. Donne-nous de te discerner à l'œuvre partout dans ces paroles qui délivrent, dans ces gestes qui portent du fruit. Dans des paroles qui pourraient sembler être des paroles de malédiction, mais qui nous aide à dégager l'être, de tout ce qui n'est que déchet. Aide-nous à entendre ta parole à travers les pierres brandies et jetées. Aide-nous à discerner ta volonté dans les mouvements, les énergies, les efforts. Oui, aiguise notre regard devant tes merveilles sans nom, qui parfois ont des vêtements d'horreur. Aiguise notre regard, nous qui sommes parfois fascinés devant le spectacle des affrontements et qui sommes aussi terrassés par notre impuissance. Et cette misère d'une humanité déchirée et souffrante. Oui, aiguise notre regard pour que nous sachions discerner cette dynamique qu'inlassablement tu relances. Et alors nous aurons l'endurance plus forte que l'échec. Nous aurons l'audace d'espérer à la mesure de tes promesses une humanité nouvelle, un homme nouveau, des individus ressuscités, solidaires, et engagé pour un monde enfin vivable pour tous. C'est l'espérance contenue dans cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples et qui est notre école et que nous faisons retentir ce matin encore. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, il nous sera donné l'occasion à l'issue de ce culte de faire acte d'un peu de fraternité, de faire connaissance les uns les autres par un verre fraternel qui est en place dans la grande sacristie. Vous pourrez donc cette fois partir de l'autre côté. Pour l'heure, ayez à cœur de recevoir cette parole qui est vraiment une parole de bénédiction. Oui, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.